Bonjour à vous et bienvenue dans ce 11e hors-série de 15 bras, 15 jambes. Cette fois-ci, nous allons nous pencher sur l'actualité du rugby, mais l'angle de la Coupe du Monde de rugby 2019 qui a eu lieu au Japon. Ce numéro, c'est aussi un petit peu le retour de cette émission. Et oui, j'avais un petit peu coupé les ponts avec le rugby, mais vous savez, des fois, rien n'éteint la passion. Après, peut-être que ce sera toujours un petit peu plus épisodique que ça ne l'était, mais malgré tout, je vais essayer de vous sustenter avec l'actualité du rugby. Des fois, c'est un peu plus triste. Heureusement, c'est souvent plus heureux. Et cette fois-ci, on va repartir plein fer pour une Coupe du Monde qui a été, ma foi, très jolie. On se retrouve tout de suite après un petit jingle.
L'équipe type des Anglais, il y a une belle équipe de pompes devant quand même. Une belle équipe de pompes. Alors,
pour cette 9e édition de la Coupe du Monde, cette fois-ci, donc j'ai dit en introduction, nous sommes allés au Japon. Première fois qu'elle est organisée dans un pays asiatique. On avait déjà eu droit en Océanie, on avait droit en Europe, et je crois que c'est à peu près en Afrique aussi, en Afrique du Sud, si je bête. Mais c'est à peu près tout. Donc pour cette première, alors elle a eu lieu un petit peu décalée dans l'année, si ma mémoire était bonne, de pas beaucoup, donc du 20 septembre au 2 novembre 2019. On était sur 12 stades qui étaient à Kumamoto, c'est le stade, ça c'est très au sud du Japon, 32 000 places, donc le stade de Kumamoto, très bien nommé. Nous avions là par contre tout au nord du Japon, le dôme de Sapporo, on ne peut pas être plus au nord quasiment du Japon, ça c'est 41 000 places. Nous avons le stade de Yokohama, ça c'est juste à côté de Tokyo, c'est le plus grand stade de la compétition, il faisait 72 000 places. Nous avons ensuite le stade de, alors c'est là où il est placé, c'est un petit peu compliqué à dire, Fukuroi, c'est le stade Ekopa de Shizuoka, ça par contre c'est quasiment 51 000 places, et c'est en fait c'est placé entre Tokyo et Nagano, ceux qui pensent y voir. Après nous avons un stade à Tokyo qui est à Chofu, c'est le stade de Tokyo tout simplement, que 50 000 places en effet, parce qu'il y, avait, il y a un plus grand stade à Tokyo, mais il est en cours de réfection pour l'année prochaine pour les Jeux Olympiques. Nous avons à Toyota, le stade de Toyota tout simplement, 45 000 places. À Hoita, ça c'est le stade qui accueille les demi, le quart de finale, plutôt, c'est le stade de Hoita, 40 000 places lui aussi. À Kobe, nous avons le stade du prince Misaki, 30 000 places. À Kamaichi, c'est le Kamaichi Recovery Memory Stadium, c'est le plus petit stade, il fait même pas 17 000 places. À Fukuoka, ça c'est très au sud aussi du Japon, c'est le Fukuoka Akatamonomori Stadium, 23 000 places grosso modo. Kumagaya, nous avons le Kumagaya Rugby Stadium avec 24 000 places. Et nous avons mon petit chouchou. Il y a marqué Osaka, mais c'est pas forcément Osaka, c'est Higashi Osaka. C'est le Hanazono Rugby Stadium, 30 000 places. Donc alors pour cette Coupe du Monde de rugby, donc, nous avons combien de pays qui étaient concernés? Alors, ce qui est bien, c'est que notre ami Wikipédia les a mis dans l'ordre de continent. Donc nous avons les États-Unis et le Canada, pour l'Amérique du Nord tout simplement. Antilles et Caraïbes, c'est le Rugby Americans North. Pour l'Europe, nous avons l'Angleterre, l'Écosse, la France, le Pays de Galles, la Géorgie, l'Irlande, l'Italie et la Russie. Pour l'Asie, on avait pays hôtes, le Japon, tout simplement. Pour l'Amérique du Sud, c'est la Sudamérica Rugby, dont nous avions l'Argentine et l'Uruguay. Pour l'Afrique, nous avions deux pays, c'est l'Afrique du Sud et la Namibie. Et nous avions... Après, pour l'Océanie, plusieurs pays, donc l'Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji, Tonga et Samoa. Alors, à la place de certains pays, auraient dû s'en substituer d'autres, pardon. Donc, en fait, la Russie a été qualifiée par ce qu'on pourrait appeler la méga cascade. En fait, si vous voulez, ça aurait dû être la Roumanie qui aurait dû se qualifier. Mais ils ont eu des problèmes de licence. Après, nous avions eu l'Espagne qui aurait dû se qualifier, mais eux aussi ont eu des problèmes de licence. En fait, ils ont fait passer des joueurs comme s'ils avaient des grands-parents espagnols, par exemple, mais en fait, ils n'étaient pas du tout espagnols. Bref, arrivée la caquette. Et le dernier pays qualifié, donc, c'est au bout du bout du bout, ouais, c'était, ça s'est passé d'ailleurs à Marseille, c'était le Canada, et il a vaillamment battu l'Allemagne Hong Kong et le Kenya pour se qualifier. Maintenant que nous avons dit les pays, ben nous allons les classer tout simplement par leur poule. Nous avions la poule A, Irlande, Écosse, Japon, Russie, Samoa. Pour la poule B, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Italie, Namibie, Canada. Pour la poule C, nous avions l'Angleterre, la France, l'Argentine, les États-Unis et les Tonga. Pour la poule D, c'était l'Australie, le Pays de Galles, la Géorgie, les Fidji et l'Uruguay. Maintenant, ben écoutez, je vais vous détailler les matchs poule par poule. Donc nous avons eu comme un match inaugural, c'est pas resté dans les annales, un Japon-Russie 30-10 au stade de Tokyo avec Nigel Owen à la sifflet. Suivi d'un Irlande-Écosse que j'ai pu voir aussi à la télé, je me suis plutôt bien régalé. Ça c'était à Yokohama, c'était avec Wayne Barnes, par contre c'est 27-3 pour l'Irlande. Nous avons eu ensuite un Russie-Samoa, ça c'est 9-34. Et ça, c'était à Kumagaya, et c'était Romain Poit au sifflet. Un magnifique et superbe Japon-Irlande, d'ailleurs, qui s'est fini sur un cagadou irlandais, j'ai rien compris. 19-12, victoire japonaise. Je crois que c'est la première victoire du Japon contre l'Irlande. C'était à Shizuoka, et c'était Angus Gartner au sifflet. Et je me suis absolument régalé, parce que vous allez comprendre tout de suite après. Après, nous avons eu un Écosse-Samoa 34-0 avec Pascal Gahuser à l'arbitrage, et c'était au stade Misaki de Kobe où j'ai eu la chance d'y aller. Alors le match n'était pas forcément terrible, mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai eu la chance d'aller voir la Coupe du Monde de rugby sur place et pas à emporter, et je me suis absolument régalé. On sentait une belle ferveur et une belle communion avec le peuple japonais, et vraiment je me suis régalé. Ce que j'ai pu voir, j'ai pu dégoter un mar avec des petits jeunes qui me permettait de voir les matchs que je ne pouvais pas aller voir ailleurs, hein, bien évidemment, sur un grand écran, et de boire des bières. Donc je n'étais pas plus malheureux qu'autre chose, mais j'étais même particulièrement heureux, et c'était un très bel événement, et j'espère qu'un jour vous pourrez vivre des événements comme ça, parce que ça fait excessivement plaisir. Après ça, nous avons eu toujours à Kobe, nous avons eu Irlande-Russie 35-0, avec Jérôme Garcès à l'arbitrage. Arbitré par Jaco Pepper, nous avons eu Japon-Samoa 38-19 à Toyota. Ensuite, nous avons eu un Écosse-Russie à sens unique 61-0 à Shizuoka avec Wayne Barnes à l'arbitrage. Nous avons eu après 47-5 entre l'Irlande et les Samoa à Fukuoka, c'est avec Nick Berry au sifflet. Et nous avons eu ce match, alors qu'on ne sait pas s'il allait avoir lieu. L'Écosse a menacé World Rugby de représailles si le match n'avait pas lieu. D'ailleurs, ils se sont chopés une amende d'anthologie, bien évidemment. Les menaces, c'est bien joli, mais après, quand on menace de temps en temps, il faut savoir aussi se faire remettre en place. Donc, c'était au stade de Yokohama. C'était Nick O'Cliffe au sifflet. Je préfère le préciser avant que j'oublie. Mais en fait, ce match aurait dû probablement être reporté pour raison de typhon Hajibis. Est passé sur le Japon à ce moment-là, donc il est passé du 10 à peu près au 12 octobre sur le Japon, hein, pour être tout à fait exact. Et pour être encore plus exact, il faut noter qu'il a fait 89 morts et il a fait 7 disparus après le passage de ce typhon. Tous les matchs ont commencé par, pas forcément une minute de silence, mais par un instant de recueillement plutôt japonais. C'est pas la minute de silence, c'est un petit peu plus court, mais c'est vraiment du recueillement. Et voilà, c'est cool d'avoir fait ça jusqu'à la fin de la compétition, malgré tout. Et donc là, ce match que les Écossais ne voulaient pas perdre, ils l'ont perdu sur le score de 28-21. Je ne sais pas si c'est la première fois que le Japon battait l'Écosse, mais en tout cas, c'est un très bel exploit des Japonais qui ont fait un très beau match. Pour notre poule B maintenant, nous avions un Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, donc gros match, 23-13, c'était à Yokohama avec Jean Garcès à l'arbitrage. Un 47-22 entre l'Italie et la Namibie, c'était Nick Berry à l'arbitrage, et c'était au Anazono Rugby Stadium. Encore un match que j'ai pu voir en vrai, ça m'a fait excessivement plaisir, surtout de voir l'Italie, qui est c'était de là où venait mon grand-père maternel, et c'est vrai qu'il avait toujours plaisir à regarder l'Italie à la télé, même si on sait tous que l'Italie au tournoi des 6 nations, c'est pas ça. Mais bon, ça lui faisait toujours quelque part un peu plaisir de les regarder. Moi, je le taquinais toujours, hein, mais bon, c'est vrai que maintenant, quand on voit les scores de l'équipe de France, c'est pas glorieux. Espérons que ces deux nations arriveront à remonter un petit peu dans nos estimes. Mais c'est vrai que voilà, c'était un petit peu pour moi particulier d'aller voir ce match et surtout d'être là-bas. C'était doublement particulier. C'était le tout premier match que j'allais voir d'une Coupe du Monde de rugby et j'étais très fier d'aller voir bah, l'Italie. Bon, faire une certaine fierté, voilà, on va dire quand même. Mais c'était, voilà, je me suis plutôt bien régalé. C'était un match très plaisant. La Namibie n'a pas fermé le jeu et c'était vraiment chouette. Et puis le stade à Nazono est vraiment très très joli. Bon, par contre, il n'est pas couvert du tout. C'est-à-dire que même les tribunes ne sont pas couvertes, à part les tribunes des petits riches. Donc forcément, de temps en temps, j'ai pris un peu la saucée. Après, nous avons eu Italie-Canada 48 à 7. C'était à Fukuoka et c'était Nigel Owens au sifflet. Mathieu Reina l'a arbitré Afrique du Sud, Namibie 57 à 3, c'était à Toyota. Nouvelle-Zélande, Canada, Romain Pat au stade de Ōita, c'est 63 à 0. Et c'est pas les Canadiens qui ont mis 63 points à la Nouvelle-Zélande, ça c'est sûr, mon bel ami. Nous avons eu après Afrique du Sud, Italie. On se rappelle il y a quelques années que l'Italie avait battu l'Afrique du Sud, mais il n'y a pas eu match. 49 à 3. Entre ces deux nations, faut dire que quand tu prends un carton rouge aussi, ça aide pas. Ça, c'était au stade de Shizuoka. Et c'était Wayne Barnes au sifflet. Nouvelle-Zélande-Namibie, 71 à 9. À Tokyo, Pascal Gahuser à l'arbitrage. Afrique du Sud, 66, Canada, 7. Ils ont mis un essai quand même. Et ça, c'était à Kobe au stade du Prince Misaki. Et c'était Luke Pierce à l'arbitrage. Deux matchs annulés. Nouvelle-Zélande-Italie et Namibie-Canada. Donc le Nouvelle-Zélande-Italie, c'était aussi les adieux internationaux normalement, ou internationaux de réunion de Gheraldini et de Sergio Parisse. Les reverra-t-on, j'espère, parce qu'il leur faut que être sorti comme ça, c'est quelque peu bon. Après, malheureusement, on ne peut pas se plaindre non plus de vouloir protéger les gens d'un typhon, hein, ça c'est tout à fait normal. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on célèbre un peu mieux le départ à la retraite de Sergio Parisse. Partira-t-il encore cette année? On ne le sait pas. Je dirai les résultats finaux, en fait, parce que je n'ai pas fait les classements, je me rends compte. Je les ferai après. Donc, pour la poule C, nous avions France-Argentine qui s'est finie sur le score de 23 à 21 à Tokyo avec Angus Gardner. À l'arbitrage, Angleterre-Tonga 35 à 3, avec Paul Williams, c'était à Sapporo. Angleterre-États-Unis 45 à 7, c'était au stade du Prince Misaki à Kobe avec Nick Berry à l'arbitrage. Argentine-Tonga que j'ai vu, parce que c'était au stade Anazono Rugby Stadium. Jaco Pepper à l'arbitrage et l'Argentine a gagné sur le score de 28 à 12. Et c'était un match aussi très plaisant. Ensuite, nous avons eu un France-États-Unis 33 à 9. C'était à Fukuoka et c'était Ben O'Cliff à l'arbitrage. Angleterre-Argentine, score plutôt élevé quand même, 39 à 10 pour l'Angleterre. C'était à Tokyo et c'était Nigel Owens à l'arbitrage. Un France-Tonga Rikiki qui nous a rappelé la Coupe du Monde de 2011 quand on avait perdu justement contre ces mêmes Tongiens. Donc 23 à 21 au stade de Kumamoto. Et c'était Nick Berry à l'arbitrage. Nous avons eu ensuite Argentine-États-Unis 47 à 17. C'était à Kumagaya. Il y avait Paul Williams à l'arbitrage. Nous avons eu ensuite le meilleur Angleterre-France de ces quelques dernières années. Donc match annulé. Ça c'était à Yokohama. Et à la fin, nous avons. Celui-là, j'ai dû le regarder à la télé parce que je n'ai pas pu voir tous les matchs du Anazono Rugby Stadium. Et j'étais quelque peu triste de voir ça à la télévision, mais c'était États-Unis Tonga. Et c'est le Tonga qui a gagné sur le score de 31 à 19. Donc nous sommes à la dernière poule, la poule B, D, pardon, je prononce mal. Nous avions Australie-Fidji 39 à 21 pour l'Australie, à Sapporo, Ben O'Cliff à l'arbitrage. Pays de Galles-Géorgie 43 à 14, c'était à Toyota, Luke Pierce à l'arbitrage. Nous avons eu probablement ce qu'on pourrait appeler avec le parcours japonais l'exploit de cette Coupe du Monde, improbable mais vrai, les Fidji contre Uruguay et ses victoires de l'Uruguay sur le score de 30 à 27. J'ai loupé ça, c'est dommage, mais bon, moi je dis félicitations à l'Uruguay, il fallait quand même le faire, ils l'ont fait. D'ailleurs, l'Uruguay n'a jamais fermé le jeu dans tous les matchs que j'ai vus, c'était chouette. Et ça, c'était à Kamaichi Recovery Memory Stadium. Et c'était Pascal Gahuser au sifflet. Géorgie-Uruguay, 33-7 à Kumagaya. Wayne Barnes à l'arbitrage. Australie-Pays de Galles, victoire du Pays de Galles sur le score de 29-25 au stade de Tokyo. Et Romain Impact au sifflet. Nous avons eu ensuite Fidji-Géorgie que j'ai vu et je me suis bien régalé. C'était une très jolie match pour un petit pleuvait à saut, mais tout ceci n'a pas fermé le jeu. Donc nous avons eu 45-10. Toujours bien évidemment au Hanazono Rugby Stadium. Grand plaisir d'aller là-bas. Et Paul Williams à l'arbitrage. Et c'était d'ailleurs, je crois, mon dernier match. Et j'étais un peu, voilà, un petit peu triste hein, de quitter tout ça. Oui, je crois que c'était le dernier, je crois. Ouais. Peut-être, je sais plus. Bon, bref. Après, nous avons eu Australie-Uruguay, 45-10 à Oita, avec Mathieu Reynal au fifflet. Nous avons eu ensuite Pays de Galles, Fidji, 29-17. Il y a eu grosse casse pour le Pays de Galles. Ils ont perdu pas mal de joueurs, soit commotion ou blessure. Pendant ce match, c'était à Oita, Jérôme Garcès. Arbitrage. Australie-Géorgie, 27-8, c'était à Shizuoka. Et pour finir, Pays de Galles-Uruguay, 35-13 pour le Pays de Galles à Kumamoto avec Angus Gardner au fifflet. Maintenant, nous allons passer donc au tableau récapitulatif pour la poule A. Donc, le premier de poule, c'est le Japon avec 4 victoires. Tout de même, c'est très bel exploit. Nous avons ensuite l'Irlande, 3 victoires, l'Écosse, 2 victoires, les Samoa, 1 victoire, et puis plus rien. Japon et Irlande sont qualifiés, et l'Écosse et les pays cités sont qualifiés pour la Coupe du Monde de 2023 en France. Après, nous avons qualifié pour la poule B, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, suivi de Italie. Tout ce beau monde est qualifié pour la Coupe du Monde de rugby 2023. Nous avons Nouvelle-Zélande qui est premier quand même avec 3 matchs, avec 3 victoires, mais 3 matchs joués. Afrique du Sud, 4 matchs joués, 3 victoires. Italie, 2 victoires. Et Namibie, Canada, Kuchi, Nada, Wolu. Après, pour notre poule C, nous avons l'Angleterre, premier, 3 victoires. La France, 3 victoires. L'Argentine, 2 victoires. Les Tonga, 1 victoire. C'est déjà pas mal pour des petits Tongiens tout de même. J'espère qu'ils continueront à s'améliorer, donc qualifier Angleterre, France et Argentine. Eux, c'est pour la Coupe du Monde en 2023. Et en fait, pour notre dernière poule, la poule D, c'était qualifier le Pays de Galles, l'Australie. Alors, le Pays de Galles, c'est 4 victoires. L'Australie, c'est 3 victoires. Les Fidji, c'est 1 victoire. Et écoutez, c'est Pays de Galles, Australie qui sont qualifiés. Et les suscités plus les Fidji, c'est pour la Coupe du Monde 2023. Maintenant, nous allons passer au quart de finale. Alors, nous avions un Angleterre-Australie où il n'y a quasiment pas eu match. Alors, c'était à Oita. On a eu Angleterre-Australie, 40-16. Les Australiens se sont fait complètement marcher dessus. C'était impressionnant. Ils n'arrivaient pas à rivaliser. Ils ont rivalisé à peu près une grosse vingtaine, 25 minutes. Allez, gros max. Après, le reste, ça a été une démonstration de force de l'Angleterre, surtout en défense pour ce match-là. Ils ont quand même été bien au fin. Enfin voilà, on va dire que ça a joué fort. Et derrière, on a eu pareil, où il n'y a pas eu match, c'était à Tokyo. Nouvelle-Zélande, Irlande. L'Irlande a coulé à pic. Jonathan Sexton a été inexistant, l'ouvreur irlandais. 46-14 pour la Nouvelle-Zélande. Nous avons eu ensuite le match qui a fait la polémique. Heureusement que la Coupe du Monde, ça a lieu que tous les 4 ans, parce que quand je vois les polémiques, je ne sais pas si je supporterai ça tous les week-ends. Enfin bon, bref, on a eu la sortie des Footix à cause d'un Pays de Galles, France, 20-19, parce que en fait, un joueur français a décidé de baisser Sébastien Vaamaina. Il a décidé, lors d'un maul, d'un groupé pénétrant, de mettre un gros, mais alors très gros coup de coude à un adversaire devant toutes les caméras. Donc, ce qui devait arriver arriva, donc carton rouge. Et l'équipe de France a excessivement très bien défendu, ce qui est légèrement improbable. Et en fait, ils ont encaissé un essai en fin de rencontre, mais un essai qu'on pourrait qualifier de légèrement douteux, ou de pas légèrement douteux, de très rugby, parce qu'en fait, il n'y a que des passes au cordeau, et on pourrait analyser cet essai pendant 3 quarts d'heure. Alors visiblement, il y a plus de trucs pour valider l'essai que le refuser, mais bon, c'est vrai que c'est un peu tendancieux. Et donc ça, c'est 20 à 19, voilà. Donc bon, l'équipe de France est éliminée. Encore une fois, l'équipe de France aurait pu se qualifier sur un match, ce qu'elle fait depuis bien longtemps, donc à savoir, c'est ce match qui cache la forêt. Nous avions ensuite, après, ben là, il n'y a pas trop eu match non plus, malheureusement. Ils ont fait quand même de beaux efforts. Donc, Japon, Afrique du Sud. Première fois que les Japonais, donc, arrivaient en quart de finale. Et là, il n'y a eu que 3 à 26. Hein. Bon, victoire sud-africaine. Vous le comprenez bien. Donc, c'est très beau parcours des Japonais. Ils m'ont fait plaisir. C'est une équipe qui joue. Et c'est pas, voilà, c'est vraiment porteur d'une idée de jeu. C'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de joueurs étrangers. Alors, arriveront-ils à combler? Visiblement, vu leur réservoir, ils pourraient combler ce problème-là. Et ils ont des très beaux joueurs en devenir, comme le second de ligne Himeno, qui est vraiment, lui, qui est vraiment très costaud. Leur talonneur aussi, Aurier. Je crois que c'est probablement l'un des meilleurs talonneurs du monde avec Marx de l'Afrique du Sud. C'est vrai que c'est un des très beaux joueurs. J'ai hâte de voir comment ils vont évoluer. Donc eux, leur championnat maintenant est en cours d'évolution. Pour ceux qui suivent cette émission, peut-être que vous le saviez, il y avait une franchise japonaise dans le Super 18, donc le rugby des conférences de l'hémisphère sud. Sauf que en fait, ça faisait chier les gens qui soient là. Donc en fait, on leur a fait du chantage pour dire, écoutez, vous nous donnez je ne sais combien de millions de millions de dollars pour que vous restiez là-dedans. Mais ils ont dit non, parce qu'ils ne sont pas plus bêtes que d'autres. Et forcément, les mecs vont se retrouver éjectés d'ici 2 ans, je crois. Et en 2021, va naître ce qui s'appellera le... Je crois que c'est pas le... Oh, c'est une ligue à 12 places, voilà, j'ai plus le nom exact. Peut-être que même le nom va changer, je ne sais pas. Mais voilà, ouais, bon, bref. Et... En fait, ils vont reprendre ces 12 stades qu'on avait là, peut-être même changer peut-être probablement certains, et en fait établir des équipes, parce qu'en fait, pour l'instant, on a des équipes semi-professionnelles, en fait, c'est les mecs qui travaillent pour genre Toshiba ou je sais pas quoi, et puis à côté de ça, ils ont une équipe. Bon, forcément, c'est sûr que c'est des vrais joueurs professionnels qui sont salariés, en fait, bon, c'est un peu bizarre le fonctionnement. Et, mais voilà, c'est par sponsor, et quoi, t'as l'équipe de Toyota, t'as l'équipe de Coca-Cola, t'as l'équipe de Kubota, moi je sais que là où j'étais, à Anazono, c'était les Kintetsu. Donc Kintetsu, c'est on s'appelle un opérateur privé de chemin de fer, mais ils ont d'autres business à côté, dirons-nous. Et donc au stade Anazono, c'était les Kintetsu Liner, quoi. Et voilà, ça va évoluer pour que ce soit vraiment pour qu'il y ait une empreinte plus locale, donc ce soit vraiment l'équipe d'Osaka, l'équipe de Kumamoto par exemple. Voilà. Et donc, il devrait faire jouer normalement un peu plus de jeunes. Donc, on devrait voir le rugby japonais continuer à s'améliorer normalement. Là où d'autres pays, c'est un peu la France déjà, on a un très beau réservoir, mais c'est un peu compliqué de le faire évoluer. C'est pas pourquoi. Puis les autres pays, je vais appeler le tiers-monde du rugby, ça évolue sans trop évoluer. Le Canada est en perte de vitesse. Les États-Unis ont fait un parcours plutôt sale quand on met en perspective que c'est la première année où tous les mecs qui étaient appelés étaient en fait professionnels, donc c'est un peu bizarre, mais voilà, ils n'ont pas marché tant que ça, même pas battu les Tonga, tant pour te dire. Donc voilà, c'est un petit peu gênant. Bon, voilà, on verra comment ça évolue d'ici quelques années, je pense que j'y reviendrai plus longuement dans une autre émission, quand on saura un peu plus. Au moment où j'enregistre cette émission, normalement, c'est très bientôt, c'est le 18 novembre 2019, ils doivent présenter ce nouveau projet de ligue japonaise qui doit se lancer normalement en 2021. Après, pour les demi-finales, donc nous avions Angleterre, Nouvelle-Zélande, l'Angleterre a fait la France, donc c'est-à-dire qu'elle a battu la Nouvelle-Zélande sans partage d'ailleurs. Moi j'étais devant la télé, j'étais totalement ébahi par ce match. Donc ils ont battu la Nouvelle-Zélande sur le score de 19 à 7. Et après nous avons eu je ne l'ai pas vu celui-là, visiblement c'était très chiant, un Pays de Galles, Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud a gagné sur le score de 19 à 16. Donc pour le match de la 3ème place, on a eu Nouvelle-Zélande, Pays de Galles, il n'y a quasiment pas eu match, 40 à 17 pour la Nouvelle-Zélande, donc 3ème. Et pour la finale, très jolie finale, ça a mis pas quand même, enfin très jolie, plutôt sur la seconde mi-temps, c'est que la première mi-temps c'était long, mais long, donc ça a mis pas mal de temps à se décanter. C'est l'Afrique du Sud qui a gagné sur le score de 32 à 12, c'est loin d'être volé. Très, très bon arbitrage d'ailleurs, c'est Jérôme Garcès qui a fait l'arbitrage de cette finale, c'était super bien arbitré je trouve. Bon, il y a eu quelques trucs un peu à la marge qu'on peut contester, mais quand on remet tout dans la balance, C'est vraiment très bien arbitré. Mais l'Afrique du Sud n'a vraiment pas volé son titre. L'Angleterre, elle, malheureusement, alors déjà, s'est fait un petit peu asphyxier par le jeu sud-africain. Mais elle n'a vraiment pas pu, contrairement au match de la Nouvelle-Zélande, poser son jeu. C'était assez impressionnant. Les mecs dégueulaient tous les ballons. J'avais l'impression qu'ils avaient. Que les mecs sont rentrés sur le terrain, ils étaient, mais ces mecs étaient torchons, quoi. Et les mecs, ils étaient vidés de l'intérieur. Il y a quelques joueurs anglais qui ont un petit peu rivalisé. Surtout, il y a quelques joueurs jeunes, là, genre Underhill ou Curry, qui sont vraiment très intéressants. C'est des joueurs vraiment à fort potentiel, ils sont très jeunes. Ils ont un petit peu rivalisé, mais c'est vrai qu'ils se sont fait vraiment asphyxier, c'est impressionnant. Moi, je suis resté vraiment assez ébahi. Je m'attendais probablement à. Je faisais plutôt une victoire de l'Angleterre, quand même, vu le match qu'ils avaient sorti. Mais c'est vrai que je suis resté un peu. Un peu ébahi, quoi. Je me suis dit, putain, mais les mecs, c'était vraiment torchon, quoi. Donc, voilà. C'était un peu. J'aurais rêvé un petit peu mieux, mais bon. C'est comme si c'est comme ça. Alors, maintenant, passer aux choses et d'autres. Hein, parce que là, vous savez, il y a toujours des choses et d'autres. Les meilleurs marqueurs, donc c'est le Pays de Galles avec Josh Adams, qui est avec 7 essais, qui est suivi de Macazole et Mabimpi avec l'Afrique du Sud, 6 essais, un joueur de 29 ans quand même, qui a été relevé un peu sur le tard, très très bien. Nous avons Kotaro Matsushima pour le Japon avec 5 essais, comme quoi les Japonais aussi sont venus pour jouer, parce qu'on sait des fois qu'avec la pression on joue très mal. Pour les meilleurs réalisateurs, eh bien, c'est très simple, c'est André Pollard de l'Afrique du Sud avec 69 points, suivi de Owen Farrell avec 58 points et Richie Maununga avec 54 points. Oh, ben, je pense que c'est tout ce que j'aurais à rajouter de cette magnifique Coupe du Monde. Je me suis vraiment régalé d'être sur place. L'arbitrage était quand même un petit peu, surtout sur les matchs de poule, j'ai trouvé ça très laxiste. Alors, pas forcément laxiste sur les. Les faits de jeu, moi ce que j'appelle vraiment sur les coups d'épaule, tout ça. Là par contre, ils ont été très répressifs, c'est pas mal. Eh, j'en ai un petit peu pour ça aussi que j'avais un petit peu quitté l'univers du rugby. On a constaté ben, des blessures, tout ça, même plus grave, des décès à cause d'accidents de jeu. Bon, c'était pas forcément sur des phases comme ça, mais voilà, c'est quand même assez violent. Donc c'est bien qu'ils aient vraiment sanctionné ce genre de choses. Après, pour le reste, ils ont été assez coulants. J'ai vu des passes un peu en avant qui étaient acceptées. J'ai vu des choses un peu. Bon, voilà. Des passes très au cordeau, dirons-nous, qui étaient acceptées. Des choses comme ça. Même dans les rucks, hein, ça poussait un peu, tout ça, etc. C'était pas très droit. Voilà, c'était un peu accepté. C'était vraiment pour mettre un petit peu du jeu. Moi, je pense que c'était pas un mal. Mais après, c'est vrai que, bon, quand on est un peu un aficionados du rugby, moi, j'ai vu des choses qui m'ont fait un peu. Voilà, qui m'ont fait un peu tousser. Alors. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Eh bien, écoutez, que ce hors-série, déjà, il est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez regardé un petit peu la Coupe du Monde et que ça vous aura, vous aussi, plu. Et bon, je pense qu'on va se retrouver bientôt pour de nouveaux épisodes. J'ai 2-3 choses dans la besace pour vous. On reparlera probablement du top 14, tout ça, etc. Je vais passer m'y remettre. Bon, voilà, vous attendez pas à avoir un épisode tous les mois. Hein. Ça, par contre, c'est sûr. Mais voilà. Donc, on va se quitter. On va se mettre un petit World in Union. C'est la chanson que vous avez entendue au début et que vous entendez depuis, parce que vous avez vu, j'ai remis la chanson à jour aussi. C'est comme quoi, il y a du budget dans cette émission. C'est l'argent du podcast qui ruisselle. Cette fois-ci, alors c'est pareil, c'est World in Union, mais c'est encore une nouvelle chanteuse. C'est Emily Sandé, et bah, on va se quitter là-dessus, et ça fera toujours plaisir, parce que la Coupe du Monde de rugby, c'est que dans 4 ans, la prochaine, nous verrons déjà comment évolue le 15 de France, parce qu'il y a du boulot quand même. Il y a du boulot, c'est prometteur, mais il y a du boulot. Écoutez, on verra bien. Alors, c'était toujours Gandalf81 qui vous remercie pour votre écoute et qui vous dit à très bientôt dans 15 bras, 15 jambes. Get away.